Bonjour, aujourd'hui de Du Guesclin à Jeanne d'Arc, la fin de la guerre de Cent Ans.
La France étant à nous, nous la plierons à notre autorité. Ou la mettrons en pièces.
Mille ans d'histoire. Ce que nous appelons aujourd'hui le Moyen-Âge et la guerre de Cent Ans sont des mots inventés par les historiens du 19e siècle pour qualifier ce qui fut à leurs yeux une des périodes les plus sombres de l'histoire de France. Marquée par la violence des batailles de Crécy ou d'Azincourt, les ravages provoqués par la peste noire, les révoltes de paysans accablés d'impôts et rançonnés par les grandes compagnies, et la fragilité d'un système féodal incapable de les protéger, comme si la guerre de Cent Ans n'avait été qu'une succession de catastrophes ininterrompues. Mais on oublie qu'elle fut entrecoupée de longues trêves, comme celle qui commençait en 1380, lorsqu'à sa mort, Du Guesclin laissait au roi de France Charles V un royaume presque entièrement libéré des Anglais qui l'avait envahi 40 ans plus tôt.
Les Anglais lâchèrent le Poitou, le Berry, l'Aunis, la Saintonge. Les Navarrais s'enfuirent de Normandie. Enfin, ce fut dans le Gévaudan qu'il nous emmena. Il assit le siège, mais aussitôt le mal le prit et le mena à l'agonie, en dépit des médecins.
Ami, il me faudra bientôt partir de votre compagnie. Par vos vaillances et non par moi, j'ai eu grand honneur. Apportez-moi l'épée de France. Je n'ai pas manqué à la bien employer. Rendez-la à notre sire Charles. Il sera bien en disposé.
Et c'était la mort de Du Guesclin en 1380. Boris Bove, bonjour.
Bonjour.
Alors c'est avec cette date de 1380, mort de Du Guesclin, et quelques semaines plus tard également celle du roi Charles V, que se termine ce que vous avez appelé la guerre, la première guerre de Cent Ans, nous en avons parlé hier avec vous, et commençait alors une longue trêve de plus de 30 ans, un long règne, le règne du fils de Charles V, Charles VI qui a régné même plus de 40 ans, et dont le règne a été marqué par un renforcement du pouvoir royal. En fait, c'est une période assez peu connue, parce que justement, c'est une période pendant laquelle il n'y a pas eu de guerre, hein, pendant cette guerre de 100 ans, mais qui a marqué une évolution considérable dans le pouvoir royal, et aussi avec une vie de cour, une civilisation de cour très brillante, dont on a totalement oublié qu'elle existait en pleine guerre de 100 ans.
Oui. Alors le règne de Charles V est contrasté parce que il arrive très jeune au pouvoir, donc c'est une situation de minorité, il y a des révoltes, et ensuite, assez jeune, il devient fou, et à partir de là, il y a, à partir de 1392, il est encore assez jeune, il devient fou. Mais entre les deux...
De Charles VI, vous voulez dire.
De Charles VI, excusez-moi, oui, j'ai un lapsus. Mais entre les deux, effectivement, il y a un moment de, disons, un peu d'apogée, un moment de grâce, et ce moment de grâce renoue avec la vie de cour qu'avait mis en place Charles V. Donc cette vie de cour, c'est pas seulement le règne de Charles VI, c'est la fin du règne de Charles V et le début du règne de Charles VI au moment de son règne personnel.
Parce que la cour, pour nous, c'est Louis XIV à Versailles, etc. En fait, ça avait commencé bien plus tôt et c'est à ce moment-là, sous Charles V, en pleine guerre de Cent Ans, qu'on peut vraiment parler de la cour telle qu'elle existera plus tard.
Alors la cour, non, on peut en parler bien avant, la cour elle existe dès que quelqu'un concentre du pouvoir entre ses mains, immédiatement tout le monde s'agglutine autour de lui pour obtenir quelque chose, des richesses, du pouvoir. Là la nouveauté de cette période c'est que avec la mise en place de l'impôt permanent en fait, le roi concentre les richesses du pays entre ses mains, il centralise en quelque sorte les richesses du pays entre ses mains, pour, non pas pour les thésauriser, mais pour les redistribuer. Et donc là, participer à la vie de cour est un enjeu politique fondamental, puisque c'est là qu'on distribue les responsabilités. propriétés, les offices, les charges, et aussi les cadeaux, les pensions, les hôtels, les châteaux, les seigneuries. Et donc, c'est ça qui explique qu'il y a un essor spectaculaire de la vie de cour, c'est la richesse, la nouvelle manne fiscale qui est entre les mains du roi. Donc, à partir de la fin du règne de Charles V et au début du règne de Charles VI.
Alors, Charles VI qui monte sur le trône très jeune, si bien qu'il est entouré, conseillé par ses oncles, par toutes ces grandes familles justement qui participent, qui dominent la cour. Vous les citez, c'est les ducs de Bourbon, de Bourgogne, d'Anjou, de Berry. En fait, Charles VI ne gouverne pas vraiment au tout début de son règne.
Voilà, au début, c'est un adolescent en fait, donc il est sous la tutelle. Il est roi en titre, mais c'est pas lui qui gouverne. Il est sous la tutelle de ses oncles, et ses oncles tiennent cette tutelle parce que pour eux, c'est une manière de gouverner à sa place et donc d'avoir accès précisément aux caisses royales dans lesquelles ils puissent très largement pour récompenser leurs propres serviteurs, placer leurs créatures et récompenser les fidélités. Alors, lorsque le roi, en revanche, adulte, il remercie les oncles, donc ils sont obligés d'accepter, mais c'est un moment un petit peu difficile entre 1389, il assume pleinement le gouvernement. Entre 1389 et 1392, c'est le moment où il est à la fois au gouvernement et pas encore malade. Et donc, il y a un moment de grâce où il semblerait que ça aurait pu être un très bon roi s'il n'avait pas été malade ensuite.
Alors, une période faste interrompue plus de 30 ans après le début du règne de Charles VI par le roi d'Angleterre Henri V qui, en 1415, relançait la guerre de Cent Ans.
Puis-je, en droit et en conscience, prétendre au royaume de France.
Défendez votre dû, déployez votre bannière sanglante.
Vos frères, les rois et les monarques de la terre s'attendent tous à vous voir vous dresser, majesté, comme jadis les lions de votre sang.
Maintenant nous sommes résolus, et avec l'aide de Dieu et la vôtre, noble muscle de notre puissance, la France étant à nous, nous la plierons à notre autorité. Ou la mettrons en pièces.
Gaiement en mer, hissez les bannières de la guerre. Je ne suis plus roi d'Angleterre si je ne suis roi de France.
Et c'était un extrait du film Henri V, de et avec Kenneth Branagh, et inspiré par Shakespeare, bien après cette guerre de Cent Ans. Qu'est-ce qui a poussé le roi d'Angleterre à nouveau à reprendre la guerre contre la France et en France ?
Eh bien, il y a deux raisons. D'abord, pour le Henri V, c'était un moyen de souder l'aristocratie anglaise derrière lui dans une expédition extérieure parce que les Anglais rêvent en fait de la grande période d'Édouard III où ils faisaient leur course en quelque sorte en France régulièrement et en pillant le pays, les campagnes grasses. Et donc, il y a cette nostalgie des chevauchés du XIVe siècle. Donc, ça, c'est la première raison. Et la principale raison, c'est qu'ils sentent que la victoire est possible parce que en France, il y a une guerre civile entre Armagnac et Bourguignon, et ce sont les Armagnac et les Bourguignons eux-mêmes qui appellent en quelque sorte les Anglais comme alliés dans une guerre civile.
Rappelons justement les origines de cette guerre civile, vous venez à l'instant de l'évoquer. Il y a d'abord l'affaiblissement du pouvoir royal dû à la folie de Charles VI et une lutte entre justement les ducs, entre le duc de Bourgogne et puis également la famille de Charles VI lui-même, le duc d'Orléans, qui vont essayer de se disputer le pouvoir, et c'est ça qui va entraîner, après l'assassinat de Louis d'Orléans, une guerre civile entre les Armagnacs, les partisans de Louis d'Orléans, et les Bourguignons, la Bourgogne qui est à l'époque un duché très important, Boris Bov.
Oui, alors le point de départ, c'est au XIVe siècle, après Poitiers, c'était la vacance du pouvoir qui avait provoqué la crise, et bien là, c'est la vacance du pouvoir, non pas parce qu'il est prisonnier, mais parce qu'il est fou, en fait. Il a des moments d'absence, des périodes, il a des crises de schizophrénie, où il dit s'appeler Georges, il refuse qu'on le touche, et donc le roi n'est plus capable de gouverner, et la question se pose, donc il n'est pas mort non plus, donc c'est pas son fils.
Dans l'histoire
encore
France,
une fois, voilà, c'est un angle mort, si vous voulez, du régime politique monarchique. Et donc le grand problème, c'est de gouverner la France avec un roi qui lorsqu'il retrouve sa conscience, peut gouverner, mais c'est des phases imprévisibles, et parfois ça peut durer plusieurs mois, où il ne peut pas prendre des décisions. Donc logiquement, ce sont les princes, comme dans une régence, qui prennent le pouvoir. La question, c'est comment se partager le pouvoir. Et la guerre civile, elle vient justement de ce partage du pouvoir. Ils n'arrivent pas à s'entendre pour se partager le pouvoir. Il y a d'une part d'abord le vieil oncle de Bourgogne qui est Philippe le Hardi, qui tient en réalité le gouvernement, mais le frère du roi, Louis d'Orléans, Louis duc d'Orléans, grandit, hein, et donc lorsqu'il avait 20 ans, il songeait surtout à faire la fête, mais à la trentaine, il commence à songer à gouverner, et c'est lui le plus proche du roi, et donc il estime avoir la légitimité pour le faire. Et lorsque son oncle meurt, donc c'est son cousin qui devient duc de Bourgogne, et autant il avait un peu de respect pour son oncle, autant il n'est pas impressionné par son cousin, et donc là, il l'élimine du pouvoir, et c'est ça qui provoque la guerre civile, parce que Jean sans peur, lui, n'accepte pas d'être évincé de la cour et de ne plus avoir accès aux mannes, à la manne fiscale, au pouvoir, aux décisions, à la nomination des officiers.
Alors la France se partage en deux entre les Armagnacs, partisans de Louis d'Orléans, et les Bourguignons, ce dont profite justement le roi d'Angleterre Henri V, qui relance la guerre de 100 ans et arrive quelque part au nord de la France le 25 octobre 1415, jour de la Saint-Crépin, pour gagner une des plus importantes batailles de la guerre de Cent Ans. On écoute un autre extrait du film Henri V d'après Shakespeare, de et avec Kenneth Branagh dans le rôle titre et doublé par Gérard Depardieu.
Quiconque aujourd'hui verse avec moi son sang sera mon frère. Si humble qu'il soit ce jour, anoblira sa condition. Et les gentilshommes anglais aujourd'hui dans leur lit se tiendront pour maudits de ne pas s'être trouvés ici. Et compteront leur bravoure pour rien, tandis que parleront ceux qui se sont battus avec nous en ce jour de la Saint-Crépin. Vous connaissez bien vos postes. Dieu soit avec vous tous.
Voyez, tous nos rangs sont enfoncés. Humiliation abominable. Honte sur nous, éternellement.
Nous sommes encore assez de vivants sur le champ de bataille pour étouffer les Anglais si quelque ordre peut être rétabli.
Au diable l'ordre à présent. Je cours à la mêlée. Et que la vie soit courte, car je préfère la mort à la honte.
La victoire est à vous, sire.
Comment s'appelle ce château?
On l'appelle Azincourt.
Alors ce sera la bataille d'Azincourt.
Et c'était le 25 octobre 1415, jour de la Saint-Crépin. 70 ans après Crécy, voilà qu'une nouvelle bataille, un nouveau désastre pour l'armée française, et un peu pour les mêmes raisons, encore une fois, à cause des archers anglais, Boris Bove. Ça a été un véritable carnage. On a dit que toute la fine fleur de la chevalerie française avait été décimée.
Voilà, alors les conditions étaient légèrement différentes. C'est pas que les chevaliers français n'étaient pas capables d'apprendre, de s'inspirer des défaites passées, mais là, il semblerait qu'il y ait eu la boue, la pluie qui empêchait les chevaux de charger, que le contexte n'était pas favorable aussi pour se déployer en ligne. Mais en fait, le point commun, c'est qu'à chaque fois, ce sont les Anglais qui choisissent le champ de bataille, et donc naturellement, ils choisissent des dispositions qui les arrangent et qui obligent la chevalerie française, qui gêne, si vous voulez. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que Henri V ne souhaitait pas du tout la bataille. Au contraire, il souhaitait qu'une seule chose, c'était partir par Calais. Il était venu en France mettre le siège à Harfleur pour obtenir, il obtient d'ailleurs la conquête de la ville, pour avoir une tête de pont pour conquérir la Normandie. Bon, comme le siège a traîné, en septembre il est trop tard, il repart, et à Azincourt en fait il est sur le chemin du retour, comme auparavant Édouard III était sur le chemin du retour lorsqu'il a été arrêté malgré lui par l'armée française, et par habileté aussi, il obtient une victoire écrasante qui, dans la mentalité médiévale, est une ordalie. C'est Dieu qui leur donne la victoire et donc légitime les prétentions militaires et politiques d'Édouard V. D'Henri V, excusez-moi.
Dans les deux cas, une bataille voulue par les rois de France et perdue par les rois de France, parce que là, c'était un véritable carnage, une des batailles les plus violentes, sinon la plus violente de la guerre de Cent Ans.
Oui, alors le carnage, c'était pas prévu en quelque sorte. C'est pas qu'ils cherchaient à se tuer, c'est qu'ils avaient fait beaucoup de prisonniers, et ça c'est normal, puisque dans les batailles médiévales, on cherche avant tout à rançonner les princes et les grands seigneurs qu'on peut attraper. Mais là, il se trouve qu'au cours de la bataille, il y a une contre-offensive française qui fait craindre aux Anglais de perdre, et donc du coup, ils égorgent leurs prisonniers parce qu'ils ne peuvent pas s'en encombrer. Et donc, c'est malgré eux, en quelque sorte, qu'ils font autant de morts. Ils auraient préféré les garder vivants pour les rançonner plus tard. Donc effectivement, mais néanmoins, vous avez tout à fait raison de souligner que ça décapite littéralement les élites politiques du royaume de France.
Et ça contraint le roi Charles VI et surtout son épouse, la reine Isabeau de Bavière, à accepter un traité humiliant pour la France, qui était le traité de Troyes en 1420, parce que par ce traité un peu unique dans l'histoire de France, eh bien on voit un roi et une reine déshériter leur propre fils, Boris Bove.
Voilà, donc la les multiples clauses dans le traité, bien c'est un traité encore plus léonin que celui de Calais au XIVe siècle, puisque Charles VI reste roi, mais seulement en nom. En réalité, c'est Henri V qui a l'exercice du pouvoir, il a une régence, si vous voulez. Henri V obtient la main de Catherine de France, donc la fille de Charles VI, et il est dit qu'à la mort de Charles VI, eh bien, Henri V ou ses descendants auront la double couronne de France et d'Angleterre. Ce qui sera le cas pour son fils Henri, donc le futur Henri VI.
Alors justement, ce qui se passe, c'est que le fils de Charles VI, Charles VII, est littéralement déshérité. On le retrouve à la tête d'une toute petite portion de territoire. On l'appelle le prétendu dauphin ou le prétendu roi de France. La France est divisée. Jamais, d'ailleurs, je crois, elle s'est trouvée dans cette situation, dans une situation pire depuis le début de la guerre de Cent Ans. Il y a une France anglaise avec la Normandie, la Guyenne, Paris. Il y a celle du duc de Bourgogne aussi, l'allié des Anglais, qui, en dehors de la Bourgogne, règne sur la Champagne et la Picardie. Puis celle du dauphin, le prétendu dauphin, en tout cas Charles VII, qui se retrouve dans le sud de la France avec Bourges comme capitale, menacé par les Anglais qui font le siège de d'Orléans en 1429, tandis que venue de l'Est, une paysanne de 16 ans arrivait à Chinon pour demander une armée à Charles VII qui, selon la légende, se trouvait caché au milieu de ses courtisans.
Regarde comme je suis vêtu. Pourquoi serais-je celui que tu appelles gentil dauphin ?
Je sais que c'est toi, le vrai héritier de France, le fils de roi.
Que veux-tu ? Qu'attends-tu de moi ?
Je suis venu et suis envoyé de par Dieu pour porter secours à vous et au royaume.
Comment t'appelles-tu ?
J'ai nom Jeanne la Pucelle. Et vous mande le roi des cieux par moi que vous serez sacré et couronné à Reims. Et vous serez lieutenant du roi des cieux qui est roi de France. Gentil dauphin, donnez-moi des gens pour que je fasse lever le siège d'Orléans et que je vous conduise à Reims.
Et c'était la rencontre entre Charles VII et Jeanne d'Arc, une légende ou une réalité ? Parce que il semble que vous accordiez pas autant d'importance que les historiens l'ont fait pendant des siècles au rôle de Jeanne d'Arc pendant cette guerre de 100 ans, Boris Bove.
Alors, l'importance que l'historien donne à Jeanne d'Arc date surtout du 19e siècle, en fait.
Là encore, c'est comme le nom de Moyen-Âge, c'est comme le nom de guerre de 100 ans.
Grande époque pour l'histoire, le 19e siècle. Donc, en fait, pour résumer, je voudrais peut-être corriger un tout petit peu ce que vous avez dit. Charles VII n'est pas à la tête d'un petit royaume, il est à la tête de toute la moitié sud du royaume, ce qui est quand même un très gros morceau.
On l'appelait le roi de Bourges, pourtant.
Ben oui, parce qu'il a déplacé sa capitale à Bourges, mais effectivement, donc ce n'est pas le royaume dans son intégralité, mais la France d'Elfinal ou de Charles VII, elle est potentiellement plus puissante en réalité que la France que tiennent les Anglais. Mais le problème de Charles VII vient de son incapacité politique en réalité à utiliser ce potentiel démographique, économique pour mener la reconquête. Et elle vient du fait qu'il est assimilé au parti Armagnac. En fait, il a fait assassiner Jean sans peur. C'est un roi partisan en quelque sorte. C'est pas un roi qui serait le roi de tous les Français. Ce serait le roi des Armagnacs. Hein. Et donc il y a de la propagande bourguignonne qui vise à le faire passer pour un bâtard de Louis d'Orléans et d'Isabeau de Bavière, et donc il semblerait que lui-même ait peut-être douté de sa propre légitimité, donc c'est un roi un peu inhibé, si vous voulez, et alors peut-être le rôle de Jeanne d'Arc, ce serait là, ce serait de lui avoir redonné confiance en le convainquant qu'il était légitime, en le poussant à aller le faire sacré, ce qui était, du point de vue du droit, pas du tout une nécessité pour être roi, puisque c'est le sang qui fait le roi à cette époque-là et pas le sacre. Mais néanmoins, le convainc de la nécessité du sacre. Et du coup, il en ressort un surcroît de légitimité dans le reste du royaume. Mais cela dit, après Jeanne d'Arc, le rapport de force est le même. C'est-à-dire qu'il y a toujours deux France, voire trois France, et il est loin de la victoire.
Mais pourtant, elle est bien à la tête de l'armée française que lui confie Charles VII, et elle a joué un rôle dans la reprise d'Orléans.
Oui, alors ses premiers...
Orléans, c'était une position stratégique importante.
Voilà, c'était le verrou sur la Loire. Le duc de Bedford, qui commandait les Anglais, voulait en finir avec le royaume de Bourges et à traverser la Loire pour l'envahir. Bon, imaginons qu'il ait réussi à prendre Orléans. Je doute fort que les Anglais aient réussi à conquérir le sud de la France. Encore une fois, on revient au rapport de force démographique. C'est-à-dire que l'Angleterre est un petit pays, n'a pas les moyens démographiques de coloniser kilomètre carré après kilomètre carré la France. Et donc, si elle n'avait pas délivré Orléans, à mon avis, il ne serait pas passé grand-chose de plus que ce qui s'est passé là. Là vraiment, le point important, c'était plutôt le sacre. Et ensuite, d'ailleurs, c'est une météore, hein, et Jeanne d'Arc, puisqu'elle est très vite, elle passe... ça dure 6 mois, son aventure, en fait. Hein. Après, elle est faite prisonnière, brûlée, et Charles VII ne fait pas grand-chose pour la délivrer.
En tout cas, d'où l'importance du sacre dont vous venez de parler, qui se déroulait à Reims le 17 juillet 1429.
Reims. Vous voulez qu'on traverse la Bourgogne? Qu'on aille provoquer Philippe dans ses terres?
Je veux Reims.
Jeanne, avant Reims, il faut soumettre Auxerre, Troyes et d'autres villes encore.
Jeanne, que réponds-tu?
D'abord la couronne. Quand vous aurez reçu la couronne à Reims, qui parlera encore d'Henri de France et d'Angleterre? Personne. Qui pourra vous nuire sans en même temps offenser Dieu? Personne. Ni régent d'Angleterre, ni duc de Bourgogne. Personne. Et leur puissance diminuera toujours. Et la vôtre grandira toujours.
Vivat Rex in aeternum.
Jeanne, allons, lève-toi.
Gentil roi, c'est fait. Le plaisir de Dieu est exécuté.
Ce qui était dedans, c'est qu'après ce sacre, Borisov, qui a été voulu par Jeanne d'Arc, qui est organisé en quelque sorte par Jeanne d'Arc, eh bien, elle semble abandonnée par le roi de France, par Charles VII, qui la laisse brûler vive par les Anglais. On a l'impression, en revanche, en vous lisant, que c'est lui qui a joué le rôle le plus important dans la fin de la guerre de Cent Ans.
Oui, Jeanne d'Arc a redonné espoir, si vous voulez, aux partis armagnacs ou à ceux qui étaient contre les anglo-bourguignons, mais n'a pas techniquement, stratégiquement ou militairement donné les moyens de la victoire. Et ensuite, bien que l'espoir soit revenu parce que cette prophétesse portait la parole de Dieu et donc dès lors qu'on avait Dieu pour son camp, et la victoire était assurée, mais néanmoins, dans la pratique, il n'y a pas eu de victoire décisive ensuite et c'est une guerre d'escarmouches avec des sans-fronts assez confuses pendant une grosse dizaine d'années parce que, en fait, le roi n'a pas les moyens militaires de la reconquête. Il lui faut tout simplement, encore une fois, l'impôt permanent qui, entre-temps, s'est dissous dans la guerre civile. Oui. Et avec cet impôt, une armée permanente. Et enfin, là, avec l'impôt permanent et une armée permanente, il peut mener la reconquête. Ce qu'il fera très rapidement, à partir du moment où il réussit à ses réformes administratives et militaires. Et ça se fait plutôt à la fin de son règne, dans les années 1444 et suivantes, où il mène les deux de front. Et ensuite, il reconquiert très rapidement la Normandie et la Guyenne. En quelques années, jusqu'en 1453.
C'est lui qui met fin à la guerre de Cent Ans. 1453, bon, on date, c'est ainsi que vous datez la fin de la guerre de Cent Ans, ce qui fait d'ailleurs qu'elle a duré plus de 100 ans, puisqu'elle a commencé en 1340, nous l'avons rappelé hier, et elle se termine en 1453. Cela dit, une guerre qui se termine sans aucun traité. Il faut rappeler quand même, enfin, vous le rappelez, Borisov, les rois d'Angleterre ont continué à se faire appeler rois de France en même temps, jusqu'en 1801.
Voilà, il n'y a pas de traité qui mette fin à la guerre, il y a juste un état de fait qui est qu'il n'y a plus de soldats anglais en Guyenne. Il y en a encore à Calais jusqu'au XVIe siècle. Et en revanche, en théorie, les rois d'Angleterre continuent à revendiquer la couronne de France. Alors ce qui se passe en Angleterre, la raison pour laquelle ils ne retentent pas une troisième expédition, une troisième phase de la guerre, c'est que eux-mêmes sont aux prises avec une guerre civile chez eux à ce moment-là, et donc ils n'ont plus du tout les moyens de lancer des expéditions extérieures. Et entre-temps, Charles VII raffermit, reconstruit l'État en quelque sorte dans le royaume de France, et donc lui, il est assez fort pour résister maintenant à une nouvelle invasion. Et donc le rapport de force fait que les Anglais n'ont plus l'occasion de faire valoir leurs droits. Mais le droit reste valable en théorie jusqu'au 19e siècle.
La guerre se termine au front d'Elmeux. Quelle est son importance dans l'histoire de la France que je le rappelle, on retrouve dans l'ensemble de ces livres publiés chez Belin, puisque votre livre 1328, Le temps de la guerre de 100 ans, fait partie des 13 livres de cette collection magnifique de chez Belin, donc qui est Histoire de France, qui a été dirigée par Joël Cornette. Mais la place justement de la guerre de 100 ans et ses conséquences pour la suite.
Alors il y a deux conséquences évidentes, c'est la mise en place de l'impôt permanent, comme je vous le disais hier. L'impôt n'existait pas, il a été mis en place au XIVe siècle, il disparaît avec la guerre civile, mais il est réinstallé avec les réformes de Charles VII, et ensuite il reste jusqu'à nos jours. Et donc, dès lors que le roi est capable de centraliser les richesses de la nation, ça lui fait un levier politique extraordinaire.
Il n'y avait pas d'impôt avant ?
Non, il n'y avait que des impôts de type foncier, le loyer de la terre, si vous voulez, ou des impôts exceptionnels. Oui, on pouvait lever l'impôt, mais seulement pour la défense du royaume, ou pour la croisade, ou pour la rançon du roi. Donc c'était toujours ponctuel et exceptionnel, et toujours très mal perçu, négocié âprement, et toujours discussion, en fait. Alors que là, à partir de là, normalement, il n'y a plus discussion. Il est normal de payer tous les ans l'impôt. Et ça, c'est un levier, alors c'est très simple, mais c'est un levier politique extraordinaire, puisque si le roi est capable de drainer les richesses de la nation, c'est la mort politique des principautés à terme, alors au XVIe siècle, mais enfin, c'est inscrit dans le cours de l'histoire. Ensuite, si le roi a un impôt permanent, il peut revendiquer le monopole de la violence, c'est-à-dire avoir une armée permanente, des forces de police qui n'existaient pas auparavant. Et donc là aussi, c'est totalement nouveau dans l'histoire de France, puisque auparavant, le pouvoir et la violence étaient exercés par les princes dans leur domaine. Ils avaient des droits de justice, ils avaient le droit de police. Et donc ça va progressivement disparaître. Donc c'est deux grandes conséquences. On pourrait dire aussi que la guerre de Cent Ans a été l'occasion d'un dialogue très intense entre le roi et son peuple pour précisément négocier l'impôt. Et ça donnait lieu aux états généraux, parfois même à des révoltes. Mais enfin, c'est donc un dialogue difficile, mais qui est assez neuf. On voit apparaître une opinion publique à cette occasion-là. Ah oui. On voit, alors peut-être c'est un peu anachronique comme expression, mais néanmoins...
Sentiment national aussi. On dit souvent que Jeanne d'Arc, au fond, c'est en cela qu'elle était reprise et parfois d'ailleurs instrumentalisée, mais que c'est avec elle l'apparition de la nation française qui n'existait pas avant.
Alors, apparition, c'est exagéré, puisque précisément, si on avait choisi Philippe VI en 1328, c'était justement parce qu'on ne voulait pas d'un roi anglais, et donc, quelque part, il y avait déjà ce sentiment national. Simplement, on peut dire que la longueur et les difficultés liées à la guerre l'ont fait progresser, l'ont fait mûrir, et c'est au XVe siècle, par exemple, que ça commence à avoir du sens de mourir pour la patrie, ce qui n'avait aucun sens au XIVe siècle, puisque c'était pas du tout une valeur, et là, désormais, mourir pour la patrie, le sacrifice, vous voyez, pour la patrie, a du sens, en particulier pour le camp Armagnac, qui a été très éprouvé au XVe siècle. Et donc cette nation, elle est née des souffrances et de la haine des Anglais, en fait, plus que de l'adhésion positive. Ou s'il y a eu adhésion positive, c'était au roi en tant que personne. C'est-à-dire que la nation incarnée dans le roi comme père de la patrie, si vous voulez.
Merci Maurice Boff de nous avoir rappelé que la guerre de 100 ans n'était pas seulement une période très sombre marquée par des événements dont nous avons parlé avec vous hier et aujourd'hui, mais qu'elle a beaucoup apporté aussi à l'histoire de France. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre, Le temps de la guerre de 100 ans, publié chez Belin, dans la collection Histoire de France, une collection nouvelle dirigée par Joël Cornette et qui comprendra 13 volumes dont 4 ont déjà été publiés. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Du Guesclin de Bertrand de la Tour en DVD aux éditions Les Classiques Français, Henri V, de et avec Kenneth Branagh et Jeanne Lapucelle de Jacques Rivette édité en DVD chez Citel Vidéo. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Guillaume Lacroux, documentation Emmanuel Fournier, Frédéric Martin, Clarisse Le Gardien et Franck Olivard, une réalisation de Anne Comilac.